Rugby show, rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au rugby show.
Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le, j'ose le dire, le 33e épisode du Rugby Show. Le 33, c'est la Gironde. Alors, on vous embrasse de Langon à Libourne en passant par Bordeaux. Mais qu'est-ce que j'entends? Ah ben oui, c'est le tournoi destination qui se rapproche. Et je peux vous dire que ça va péter, qu'on est prêt à taper de l'irlandais. Et pour discuter de ce tournoi qui arrive, qui se rapproche, autour de moi, Thomas et Elios, vos chroniqueurs bouillants, comment ça va les gars?
Ah, ça va super bien, Clément, comme tu l'as dit, le retour du 6 Nations, c'est toujours un mois difficile, les dernières semaines de janvier, les premières semaines de février. Là, on se remet dans le bain avec un magnifique 6 Nations qui nous attend, on espère le remporter. Ça sent plutôt bon, j'ai l'impression.
Oh, 33, les gars, c'est aussi Jésus, Bruce Lee et Balavoine. Hein.
Ah ouais, c'est vrai que le club des 33, il a une mauvaise réputation, c'est risqué.
Oh putain, le rugby show, il va pas mourir à 33 ans.
Ça, je peux vous dire que non.
Non, même nous, j'espère qu'on va passer les 33 balais, les gars. Hein. C'est ce qu'on peut nous souhaiter. Hein.
Au programme de ce 33e épisode, justement, on commence avec la liste de Fabien Galthié. On parlera évidemment des blessures et des absents qui vont nous manquer. On abordera également la forme des Français en Champions Cup, forme physique, forme mentale. Tout sera passé au crible dans cet épisode, je peux vous le garantir. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la liste de Fabien Galthié, trompette. Les gars, la liste de Fabien Galthié est sortie la semaine dernière. Et au programme de cette liste, quelques petites surprises. Ouais. Elios, des petits noms que tu n'attendais pas dans la liste des 32.
Ouais, bah, je pense que tout le monde a été 34, ouais. Bah,
déjà, 33e épisode, enfin bref, c'est compliqué pour moi, les gars. Je suis perdu dans les 30.
C'est vrai qu'on se perd, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué. C'est la première fois, Clément, je crois qu'on a une liste de 34 joueurs, enfin en tout cas sous l'ère Galthié, sous l'ère moderne. C'est la première fois qu'on a une liste avec 34 joueurs. Donc il y a eu quelques surprises, comme tu l'as dit. Il y a eu en deuxième ligne déjà Mathias Alagaou. Je découvre son prénom en lisant la liste.
En live.
Je savais pas qu'il s'appelait Mathias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme surprise? Il y a un retour de Mathis Lebel. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Pas forcément.
Franchement, il y a un an, tu ne te serais pas dit qu'il allait sauter Gabon.
Clairement, un retour mérité. Après, l'autre grosse surprise, c'est un autre Toulonnais, Esteban Abadi, troisième ligne, qui est connu pour avoir le super pouvoir d'être excellent en touche. Donc lui aussi, c'est une grosse surprise, sachant qu'il vient de Brive, qui était en très grande difficulté l'année dernière. Donc lui, c'est quand même assez incroyable de le voir à ce niveau-là. Je sais que Thomas, toi, tu l'adores, ce mec.
Bah, alors, super pouvoir, c'est pas toi qui le dis, c'est Fabien Galthié en plus. Donc, c'est vraiment qu'il doit y avoir quelque chose. Et l'année dernière, les deux meilleurs alignements en touche, c'était le Stade français avec Sampere qui est venu du coup entraîner l'équipe de France. Et c'était Brive avec Abadi qui était capitaine de touche à Brive. Et donc, si l'alignement toulonnais se porte si bien cette année, bah, je pense qu'il n'y est pas étranger. Et c'est peut-être pour ça qu'il est venu choper la place de Macalou dans le groupe.
Bah c'est vrai que c'est ça qui est cool avec Fabien Galthié, c'est qu'il prend, t'as l'impression qu'il prend un peu le meilleur, un peu à droite à gauche pour former un beau groupe hétérogène et créer un peu une émulsion, quoi. Donc c'est cool.
Groupe de 34, on était 42 sur l'année dernière. Après la Coupe du Monde, on était 33, donc au final, on est plutôt sur un mode Coupe du Monde, quoi.
Ouais, il faut rappeler que c'est une liste de 34 qui est pas forcément non plus figée, vu qu'il va y avoir des... On va en reparler, j'imagine, très bientôt, Clément, mais il va y avoir des blessés, il va y avoir des joueurs qui vont rejoindre le groupe, donc cette liste, elle est pas...
On a déjà vu des blessés. Ouais. Oh mon Dieu.
On va en parler des blessés, les gars. Mais peut-être avant ça, le nouveau capitaine du 15 de France pour ce tournoi, j'ai nommé Grégory Aldrit, qui a fait une petite pause mentale avant de revenir jouer avec La Rochelle. Un Grec qu'on retrouve en pleine forme et qui remplace notamment... Bon, un Dupont évidemment, mais aussi un Charles Olivon qui lui pourtant est dans le groupe. Ouais, Galthié qui titularise Aldrit capitaine, probablement parce qu'il a 4 ans de moins que notre ami Charles Olivon. Un bon choix selon toi, Thomas?
Greg Aldrit, c'est fou, hein. Il prend 4 mois de vacances, promotion. T'as déjà fait ça ton patron, toi?
C'est vrai que c'est fou, ça.
C'est vrai.
je vais en toucher un mot à ma direction.
Ouais, alors c'est normal. Ouais, il le mérite parce que il est plus indiscutable dans la troisième ligne que qu'Olivon. Olivon, il y a la concu de Kroos, de Jelon. Bon, peut-être pas Jelon sur les prochaines semaines, mais il y a c'est logique. Après, il y a un autre truc aussi qui est important. Je pense qu'il est même très très important, c'est que Aldrit, il a de la famille écossaise et parler anglais au niveau international,
ouais, c'est
non négociable. Là, Dupont au quart de finale avec Ben O'Keefe, il bégayait à moitié. Ouais.
Bah c'est sûr, là ça fait quelques semaines, quelques mois déjà qu'on répète que rugbystiquement on est au niveau, mais qu'on n'arrive pas forcément à bien communiquer, à bien collaborer avec les arbitres. Et vu que ça nous a porté préjudice à de nombreuses reprises par le passé, c'est sûr que ça a joué. Après, ouais, moi je pense aussi que Aldrit profite du fait que Olivon a été un petit peu incertain les dernières semaines. Il s'est pas entraîné avec Toulon, je crois, là depuis 10 jours. Il a pas joué énormément les 2-3 dernières semaines. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que Galtier a voulu se rassurer avec un Aldrit qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Et en plus de ça, je pense aussi qu'il a voulu aussi peut-être le responsabiliser. Le fait que lui ait très très mal vécu l'échec de la défaite en Coupe du Monde et qu'il ait été un peu absent pendant 2-3 mois, tu vois, ça lui donne un nouveau rôle et je pense que ça lui permet d'encore plus plonger à 100% avec ce 15 de France pour ce 6 Nations, quoi.
Couplé au fait que Dupont et Aldrit sont des meilleurs copains et que le passage du capitana se fait aussi plus facilement et les débriefs de capitaine après dans les vestiaires, ça sera sûrement plus simple.
C'est la mafia gersoise. C'est ça.
Après, en tout cas, Aldrit, il est plus sûr d'être à la Coupe du Monde et il aurait fait sa pause même s'il avait pas été éliminé en quart. Je crois que c'était déjà prévu la pause de les petites vacances là.
Elle aurait été probablement un peu plus courte du coup s'il était champion du monde.
Ouais, ah bah, c'est ça.
Au moins 2 semaines de moins.
Au moins 2 semaines de moins. Les gars, sur la liste, il y a des petites surprises. On a rapidement abordé la chose. Et des joueurs aussi qu'on a hâte de voir probablement. Je pense à un Gibert notamment. Mm-hmm. Est-ce que c'est des gars qui selon vous, vont être titularisés sur les feuilles de match dans les prochaines semaines?
C'est marrant, Gibert, il a zéro dégaine, mais rugbystiquement, il pue. Hein. C'est un peu comme un Thomas Ramos.
Très, très fort.
Moi, je dirais pas ça sur Thomas Ramos. Hein. Il a le bras long, il a un pouvoir de fou. Je dirais jamais ça en live.
9, il joue 9-10, Gibert, donc c'est hyper pratique.
Ouais,
un Dupont qui sort, un Couillou qui sort. Là, lui, sur une feuille de match, il a l'atout de pouvoir jouer 9 et 10. Donc, franchement, c'est pas mal quand t'as un Ramos qui va jouer 15 et qui peut potentiellement jouer 10. D'habitude, c'était plutôt le remplaçant avec Jaminet sur le banc. Mais là, Gibert, je pense qu'il peut grave sauter Jaminet sur le banc.
Ouais, bah, 100%. On y reviendra, je pense, dans les prochains épisodes. On fera la liste qu'on espère voir des 23 qui vont commencer contre l'Irlande. Mais moi, je pense très clairement, Thomas, que t'as raison.
On espère pas voir Jaminet.
Non, mais on n'espère pas, et je pense d'ailleurs qu'ils ne le mettront pas et qu'ils mettront bel et bien Antoine Gibert sur le banc. Et comme tu le disais, Thomas, peut-être que les puristes, les mecs qui aiment le jeu âpre, qui aiment les gros physiques, qui aiment les gros sudaf, peut-être que ça sera un peu les détraqueurs d'Antoine Gibert, mais Antoine Gibert, il a une palette incroyable, comme tu l'as dit, il est polyvalent, il sait tout faire. Et même si bon, il n'a pas un gros physique, il doit faire quoi, peut-être 85 kilos, j'en sais rien, mais il s'échappe jamais, et ça j'adore, et j'ai hâte de le voir. Il a fait un énorme match cette semaine là. Avec le Racing, il a d'ailleurs qualifié le Racing en 8e de finale de la Champions Cup et il va aussi très certainement être associé à Nolan Le Garec quand ils vont faire leur rentrée vers la 60-70e ou alors peut-être quand ils seront titulaires contre l'Italie par exemple. Moi j'ai hâte de voir Nolan Le Garec associé avec Antoine Gibert en équipe de France. Hein, les dominos là, ça va être beau à voir.
Gibert, hein. C'est le maître à jouer du leader du top 14 quand même. Et en plus, il est gaucher. Nous on n'a pas beaucoup de gauchers en équipe de France. Enfin, on a Dupont qui était ni gauche ni droite, mais là Dupont il sera au JO, il sera
pas extra.
Ouais. Non, franchement, le pied gauche, c'est un avantage aussi.
Bon, Antoine Gibert, clairement, c'est avec Abadi, c'est un peu l'ovni, parce que pour le coup, évidemment, qu'il fait une très belle saison, mais on l'attendait pas du tout quand même arriver aussi vite dans une liste de 34 où il y a que 2 numéros 10. Donc c'est pas comme si t'étais le 3e numéro 10 qu'on te prenait pour te faire plaisir et pour t'entraîner tranquillement à haute intensité à Marcoussis. Là, il va vraiment jouer, il va vraiment rentrer dans le grand bain, quoi. Donc ça doit être super excitant pour lui. Et
on verra s'il choisit de mettre Ramos 110 en fin de match ou Gibert.
Ouais,
et puisqu'on parle de joueurs qui ont fait des gros matchs, tu le disais Elios, notamment Gibert ce week-end avec le Racing, qu'est-ce que vous pensez d'un certain Mathys Lebel qui est dans le groupe, hein, donc dans la liste de Galtier, qu'on n'attendait pas spécialement en équipe de France et encore moins, enfin qu'on n'attendait pas il y a quelques mois en équipe de France, qui fait des prestations de plus en plus folles avec Toulouse, qui fait encore un match assez fort avec Toulouse cette semaine, et qui est notamment très présent sur les ballons hauts et très puissant sur les ballons hauts. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui peut voler la place d'un Bielbarré, par exemple?
Bon, il est pas là pour bousculer la hiérarchie, Matif.
Honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Le Bell, c'est vraiment un mec, tu vois, c'est pas un gros rigolo, c'est vraiment un bosseur. Le gars, c'est un charbonneur, il a faim, il est précis. C'est un peu à l'image de Ramos, tu vois, c'est des mecs, tu vois qu'ils ont faim, qu'ils ont qu'une seule envie, c'est de bouffer le mec d'en face, c'est de marquer des essais. Les mecs, ils sont attirés par le poteau de coin, tu vois. Et comment il s'appelle, Le Bell, il fait une super saison. Pendant la Coupe du Monde, il était capitaine, il a tenu Toulouse un peu sur ses épaules. Moi, je suis super content de le revoir et je trouve qu'on a été un peu trop critique à son égard l'année dernière, notamment quand Dumortier est venu, il a fait sa petite apparition de 2-3 mois, il a fait quelques fulgurances. On a bien taillé Le Bell et c'est bien dommage parce qu'il nous fait mentir.
On s'excuse, Mathis.
Désolé, Mathis.
Pour conclure sur cette partie, les gars, en un mot, maximum chacun de votre côté, est-ce que cette liste de Galtier vous fait croire au fait qu'on peut être champion du tournoi Destination ?
Oui.
Oui.
On m'a dit un mot.
C'est bien, les gars. Et maintenant, on enchaîne tout de suite.
Peu importe la liste qu'il aurait mis, j'aurais dit oui.
Ok, bon, d'accord, ça c'est pas une question, c'est pas une question très pertinente parce qu'on est un peu trop chaud. Hein. Les gars, hein, le second sujet, je vous propose, pardon, qu'on passe tout de suite au second sujet de cet épisode, les blessures et les absents de la liste de Galtier. Trompette.
Trompette
de Galtier. Peut-être qu'on commence sur la liste avec les absents notoires. On pense à Ntamack, Ntamack donc, qui est blessé hein, depuis match de préparation contre l'Écosse avant la Coupe du Monde. Un Dupont qui sera donc présent pour la première fois dans des matchs de top 14 alors que les internationaux seront à Marcoussis. Un Bourgaït aussi. Des absences qui vont compliquer, messieurs, la victoire de l'équipe de France dans ce tournoi.
Quand t'as pas Antoine Dupont dans ton équipe, forcément, c'est moins facile. Ou Ntamack. Ouais. Mais bon, on a quand même d'autres éléments sympas qu'on a envie de voir. Et c'est, tu vois, nous, on n'a plus Dupont, on affronte l'Irlande pour le premier match, ils ont plus Sexton.
Ouais, complètement. Donc c'est quoi ? C'est le tournoi des révélations, un peu, pour nous. T'as des mecs qui peuvent pas s'exprimer en temps normal, qui vont avoir un peu d'espace, là.
Tournoi de sortie de Coupe du Monde, c'est pas le tournoi qu'on doit gagner à tout prix. Même ouais, si on va...
Même si la saison 2 de Netflix sortira, ouais, donc ce serait pas sûr. Mal qu'on gagne le tournoi.
On va pas faire deux saisons sur Netflix.
À être deuxième.
Clément, pour répondre à ta question initiale, est-ce que les blessés vont vraiment amoindrir les performances de l'équipe ? Moi, j'ai bien peur que malheureusement, oui, par la force des choses, parce que tu as bien vu pour la Coupe du Monde, par exemple, on avait Marchand qui était blessé, on avait Ntamack qui était blessé, on avait Jelon qui revenait. Et au final, bon, on a fait une bonne Coupe du Monde, mais on a été éliminé en quart, donc... Tu vois que quand t'as pas tes forces vives et que tes concurrents directs, ils ont 100% de leur effectif. Tu vois, là, l'Irlande, on dit qu'il leur manque Sexton, mais au final, il leur manque pas grand monde d'autres que Sexton. Donc on part pas non plus très, très serein. Mais comme dit Thomas, c'est pas forcément...
Il y a McHansen, je crois, qui est absent aussi en Irlande.
Ouais, il y a McHansen qui est blessé aussi. Mais contrairement à la Coupe du Monde, et Thomas, là où il a raison, c'est qu'en 2023, entre guillemets, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Là, c'est un tournoi de transition. Très clairement, nous, notre objectif, ouais. Il est à long terme, c'est 2027. C'est dominer le rugby mondial à long terme. Être les seuls sur la scène internationale d'ici à 2030. Donc en effet, Galtier, lui, il n'est pas court-termiste, il voit plus loin. Donc, c'est...
Et il y a des blessures auxquelles on était un peu préparé mentalement. Il y a d'autres auxquelles on était moins préparé, autant mentalement que physiquement, apparemment. Je pense à
Zinedine
ou à un Méafou. Ouais. Jelon, d'ailleurs.
Dur.
Ça va être horrible, hein. Franchement, il était déjà blessé il y a un an
Ouais, février dernier. Bah, il se l'est fait aux Six Nations, au deuxième ou au troisième match de Six Nations, donc jour pour jour, moins d'un an.
L'autre genou.
Ouais, mais à chaque fois que quelqu'un écorche son nom, ça abîme son ligament.
Ouais, c'est ça. C'est l'homme dont on ne sait pas prononcer le nom. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un se mette d'accord, il faudrait que même lui un jour, il dise « je m'appelle comme ça », parce qu'entre le « Jelon ». Ouais, il y a de tout, mais non. Blague à part, grosse pensée pour lui, parce que c'est ce que j'y pensais tout à l'heure quand je lisais la nouvelle. Je me dis que lui, c'est vraiment pas le joueur à qui t'as envie que ça arrive, quoi. Il est gentil, il est toujours souriant dans les interviews, dans les différents documentaires qu'on a pu voir à propos de lui. Tu vois que c'est un vrai bosseur, c'est un vrai bon gars, ce mec. Hein.
Et t'as pas envie que ça lui arrive quand t'es français, mais je peux te dire que quand t'es pas français, t'es bien content que ça lui arrive.
Très envie que ça lui arrive.
Non, mais dans le sens où on souhaite le malheur de personne, mais encore moins à lui, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, la dédication, l'implication qu'il a montré pour revenir en forme et entre guillemets sauver la patrie pour la Coupe du Monde, honnêtement, on pourra jamais le remercier assez, tu vois. Et ce qui est super triste, c'est qu'il avait une courbe de progression là depuis qu'il revenait de sa blessure. Il fait une saison monstrueuse avec Toulouse. Ouais. Et il était super en forme. Moi, honnêtement, ça ne m'aurait pas forcément étonné qu'il aurait pu être élu homme du tournoi, tu vois, par exemple, avec l'état de forme qu'il avait. Et honnêtement, c'est assez, assez triste. Donc, Anto, on a une grosse pensée pour toi.
Anto, on t'embrasse.
Ce qui est un peu dur, c'est qu'on n'a que des blessés devant.
Ouais, mais à fou, justement. Autre blessure, en tout cas, pour le match contre l'Irlande, alors que...
Un peu moins grave, je crois. Ouais.
Non, oui, un peu moins grave en blessure, mais pas un peu moins grave en absence pour un premier match de tournoi.
Non, non, évidemment, pas. C'est, il est tout aussi important pour le groupe, je pense, qu'un gelon, mais c'est vrai qu'il est absent, que je pense, un mois, non, ou c'est une entorse assez légère, je crois. Donc,
au moins pour le premier match.
Ouais.
Ouais, bon, après, malheureusement,
c'est vraiment plus important, quoi.
En deuxième ligne, ça va être galère, hein, sans Méafou, sans Flamand, qui est aussi blessé.
Ouais. Est-ce qu'on va être obligé d'appeler Polo Gabriag, le Parisien qui a été rappelé après 1150
jours. Il arrive.
après 1150 jours d'absence au 15 de France, il a été rappelé.
150 ans, Elios, on a déjà dit.
Mais ouais, mais putain, on va quand même pas commencer avec Mathias, j'ai oublié son prénom, à la Gaou et Gabriel en titulaire, quoi, ça a pas la même gueule. Hein.
Peut-être que ça va laisser de la place à des révélations. Peut-être que ça va permettre à des joueurs de se transcender. Bah, et
c'est Olivon qui va commencer deuxième ligne.
Ouais, et Flamand, par exemple, on le voyait pas venir, hein, forcément, à l'époque. Hein, donc voilà, quoi.
Exactement. Elios, tu voulais, je crois, aussi aborder une des raisons qui explique, selon toi, toutes ces blessures à répétition du côté des Français. Ouais. Avec un temps de jeu assez inégal en fonction des nations.
Complètement. Déjà, il faut rappeler que le championnat français, comme tout le monde le sait, il s'appelle le top 14, donc il y a 14 équipes, alors que dans le championnat anglais, je crois qu'il y en a peut-être 12, et également aussi dans le championnat celte, ils ont que 12 matchs, et aussi le championnat est beaucoup moins, entre guillemets, compétitif et beaucoup moins disputé, dans le sens où il y a une, deux, trois équipes performantes par championnat, alors que dans le top 14, entre guillemets, tu peux très bien perdre contre Perpignan, donc ou contre CAB à la grande époque. Non, mais dans le sens où même les gros clubs de top 14, ils lâchent jamais les matchs, enfin, ils lâchent très rarement les matchs. Du coup, la conclusion, c'est que les joueurs français et du coup les joueurs internationaux français jouent beaucoup plus que les autres. Donc les joueurs les plus utilisés entre 2019 et 2023, c'est en 6e Ntamack, ensuite Ramos, Aldrit, Penaud et Ficou. Et le plus utilisé, c'est Antoine Dupont, pardon. Et si on prend ne serait-ce que l'ex-Antoine Dupont, depuis 2019, il a joué 8000 minutes. Alors que, par exemple, quand tu compares à son homologue sud-africain Faf du Clercq, il a joué 6000 minutes. Donc, entre 8000 et 6000, il a quand même joué 25% de moins. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Par exemple, tu vois, un Gibson Park, il est pas loin des 4000
minutes. Ça fait 2000 minutes de moins.
Ouais, 2000 minutes de moins. Merci.
Oh, Clément. T'as vite calculé.
Merci. Et tu vois, par exemple.
De tête, la vidéo le prouve.
Un Gibson Park, ça a joué 4000 minutes depuis 2019. Un Aaron Smith, ça a joué 5000 minutes. Et un Faf de Clercq, ça a joué 6000 minutes. Bon, je vais pas faire le tour de tous les postes, mais c'est juste pour montrer que les internationaux français, ils sont surutilisés. Et quand tu vois l'intensité des matchs, la longueur du temps de jeu effectif à chaque match, c'est pas étonnant que les Français, ils aient beaucoup plus de blessés que les autres. Et malheureusement, ils vont devoir changer quelque chose, parce qu'à long terme, ça va pas être possible. Par exemple, quand tu vois un Romain Ntamack qui a dit il y a pas longtemps, si je m'étais pas blessé, entre guillemets, j'aurais jamais pu me reposer, et la blessure, entre guillemets, m'a fait du bien, quoi, malheureusement.
Ouais, c'est un truc de fou.
On vient de voir un exemple. Nous, on a, ok, tu disais 14 équipes. Donc, la potentielle solution, c'est d'en enlever deux. Évidemment, les managers, ils veulent pas enlever deux équipes parce que ça fait 4 matchs en moins dans l'année, 2 matchs en moins à domicile, donc moins d'argent. Mmh, mais bon, tu vois, les Anglais, ils viennent de perdre deux équipes. Et du coup, les meilleurs joueurs sont plus concentrés dans les 10 équipes qui restent. Et ils jouent 4 matchs de moins dans l'année. Donc, par la force des choses, les clubs anglais se sont renforcés. Et là, tu l'as vu en Champions Cup, les clubs anglais, ils sont chauds cette année.
Mmh. Donc, ouais. Vous êtes pour quoi ? Vous êtes pour le top 12 en France ?
Franchement, ouais.
Je sais pas, ça va être assez.
C'est difficile parce que c'est le cœur et la raison. Il y a une partie de lui qui ne peut pas dire oui.
Et moi, ça renforcera le Pro D2, Elios.
Ouais, c'est vrai.
Tu pourras jouer avec Perpignan et tout, tu seras bien là-bas.
Non, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec un championnat à 12 équipes. Après, quand tu vois cette année, les deux derniers du championnat, c'est Montpellier et Lyon. Ça reste quand même des équipes compétitives que tu as plaisir à voir. Donc, Le problème, c'est pas forcément le top
14. On verra à la fin de la foire.
Les gars, on l'a répété déjà depuis des semaines et des semaines, voire des années. On doit boycotter la Coupe d'Europe. De toute façon, on la gagne à chaque fois. Là, maintenant, c'est acté. On est bien plus fort que les clubs anglais. Il faut boycotter cette Coupe d'Europe. Le championnat local, il est tellement beau. Les barrages de top 14, les barrages d'accession au Pro D2, c'est magnifique. C'est ça le rugby. Tu vois, c'est notre rugby à nous, notre rugby français. Notre identité, c'est ça qui nous définit. C'est pas d'aller faire des matchs en Afrique du Sud ou en Russie, là, en Sibérie. Là,
tu joues 9 matchs de Coupe d'Europe pour un truc qui se veut prestigieux. C'est sympa. Ils disent tous, les joueurs au niveau international, c'est mieux, ça va plus vite. Tu te rapproches du niveau. Tu te rapproches de ce niveau-là en Coupe d'Europe. C'est 9 affiches dans l'année, alors que le top 14, c'est 29 affiches dans l'année. Ça va, on peut en enlever 4 en top 14 aussi. Moi, je préfère regarder le top 14, mais.
Ouais, bon, après, on peut pas.
Les joueurs soient là, quoi. Le top 14 en période de doublon, par exemple, c'est chiant.
Ah, bah, c'est sûr, bah, tout est chiant en période de doublon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aussi boycotter le top 14 la semaine prochaine.
Ah, en période de doublon, elle n'est pas contente. Hein.
complètement, les gars. Du coup, malgré blessure et absent, est-ce que vous pensez, et c'est un peu la même question que tout à l'heure, est-ce que vous pensez que la France est capable de gagner le tournoi, malgré donc l'absence de Jelon et de Meafou, par exemple?
Elios, je te laisse te prononcer en premier.
Bah, évidemment qu'on y croit, impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. C'est ce que j'ai à dire.
Qu'est-ce que tu as à dire? Putain, au rugby show, on a des analyses très poussées. Hein. Moi, je vais te le dire. Non, mais l'argument principal, c'est quand même qu'on joue les deux matchs les plus durs à domicile, à savoir contre l'Irlande et contre l'Angleterre. Enfin, c'est selon moi, en tout cas, les matchs les plus durs.
Ouais.
Et donc, cette optique, on est avantagé.
Bah, c'est sûr, ça, comme tu le dis, Thomas, les années du coup paires où on reçoit et l'Irlande et l'Angleterre, qui sont nos deux plus grands concurrents, je pense que c'est les seules années où on a réussi à faire des grands chelems. Un grand chelem serait de très très bon augure et nous ferait beaucoup de bien, mais honnêtement, je suis pas forcément sûr qu'on arrive à faire le grand chelem. Après, commencer par l'Irlande, c'est bien parce que t'arrives avec tes forces vives, t'arrives à pleine puissance, et même si après t'as d'autres blessés et une équipe qui s'égrène un petit peu, au moins on a assuré l'essentiel. Donc, au vu du calendrier,
je sais pas si c'est bien pour un premier match, parce qu'en général, nos premiers matchs du rassemblement, on fait beaucoup de fautes, on se fait beaucoup pénaliser. Ouais. Tu te souviens, l'année dernière, je sais pas si c'était 30 pénalités contre l'Italie.
Oui, parce qu'on commençait souvent contre l'Italie, mais...
Ouais, mais là, commencer contre l'Irlande, c'est un autre morceau.
Ouais, mais...
Ça va être un beau match. Et le rugby show, il sera. Je peux vous dire qu'on sera au club pour couvrir l'événement.
Oh, le rugby show sera chaud. Non, attends, un truc que Galtier a dit quand même, qu'il y a eu quelques axes de travail depuis la Coupe du Monde,
ouais,
qui sont assez importants à souligner. Il continue le travail disciplinaire avec les arbitres, avec World Rugby. On a beaucoup parlé de l'arbitrage en quart, mais on est tout de même l'équipe la moins pénalisée de la Coupe du Monde, 7 pénalités par match.
Ouais, c'est vrai.
Respect.
Donc voilà, à ce niveau-là, c'est important. Mais je pense que le travail le plus important, ça a été le travail psychologique. Parce que tu perds la Coupe du Monde pour te relever, c'est quand même hyper dur. Tu te fais larguer, tu vas pas redraguer tout de suite, à moins d'être parmi les plus téméraires.
Il faut y aller tout de suite, mais vraiment tout de suite.
Bon, ça fait 4 ans que tu l'attends et que là... C'est un nom juste avant deux semaines avant le mariage, je peux te dire. elle met un coup au moral, celle-là.
Donc, c'est une bonne comparaison.
Galtier, il nous lisait des messages qu'il avait envoyés. Je vais vous le lire tout de suite, un extrait qu'il a envoyé au groupe WhatsApp de l'équipe de France. En France, de la déception naît la révolte, de la révolte naît le combat, du combat naît la victoire. Et messieurs, nous allons combattre pour la victoire.
J'adore.
Alors ça c'est très philosophique. On sait que Galtier, il est quand même très très data, très rationnel, et il essaye de tout rationaliser. Et ils ont essayé de rationaliser ce rapport de force psychologique, et dans une interview il nous le décrit. Je sais pas si c'est le truc le plus facile à comprendre, mais en gros, eux, ils parlent nous il y a le score qu'on voit au tableau d'affichage, et eux, ils ont un autre score, un autre système de scorage dans la tête, et ce scorage, bon bah il se base sur les temps forts que tu convertis, sur les fautes sifflées ou non sifflées, sur le nombre de ballons perdus, sur le nombre de 50-22 que tu as obtenu. Et à chaque fois qu'il y a un fait de match comme ça qui se passe, il le décompte, plus 1, moins 1, en fonction de l'équipe. Et là, ils ont demandé aux joueurs justement quels étaient les aspects psychologiques qui les affectaient le plus pendant les matchs. Et il se trouve que ces joueurs, voilà, ont décrit tous ces critères. Au final, tous les matchs qu'on a gagnés sous l'ère Galtier, on était devant sur ce système de scorage.
Ouais,
et tout ce qu'on a perdu, on était derrière.
Ouais, c'est intéressant. C'est quoi? Donc, c'est un genre de scorage C'est pas le score visible, mais c'est un genre de score mental et de score de, ouais, de mental sur le terrain, ouais, qui fait que si t'es dans le positif, a priori tu gagnes ton match, quoi.
Bah c'est ça, je pense que ça témoigne en gros de l'état de confiance de chaque joueur, de chaque joueur en fonction des petits éléments et des petites scories qui peut se passer pendant le match. Ouais, hein, c'est sûr que ça joue beaucoup quand t'es confiant et que tu sens que soit t'as l'arbitre de ton côté, soit que t'es uni avec tes coéquipiers, soit que tu sens que, je sais pas, t'es dans un bon jour et que le ballon il va avoir des bons rebonds pour toi. Bah c'est sûr que tu joues avec plus de confiance, plus de décontraction, et ça t'amène à être beaucoup plus performant. Donc moi je trouve ça intéressant de vouloir quantifier justement toutes ces variables là que tu pourrais penser justement que c'est inquantifiable et que c'est juste de l'humain, que c'est juste de l'émotion et que c'est juste du moment présent. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir le quantifier, parce que je pense que vraiment ensuite ils vont pouvoir travailler là-dessus et ils vont pouvoir être capables de gagner des matchs même en ayant perdu l'ascendant psychologique, j'espère.
Ouais, mais tu tires quoi comme leçon de ça, genre juste faut faire plus de 50-22 les gars, parce que sinon on n'est pas dans le positif.
C'est ça. Super. Tu défends, bah oui, mais alors tu tires quoi comme leçon? Tu défends un temps fort adverse devant ta ligne plus un, bon, pas facile. Et tu diras, ok.
Les mecs avant ils le faisaient pas, mais bon maintenant ils vont le faire.
50-22 plus un. Isabelle Iturburu qui te fait un sourire plus 10. Non, en fait, sur quoi ils ont travaillé, c'est sur comment est-ce que ça les affecte sur le plan psychologique.
C'est
fait de match. C'est le fait que ça t'affecte le moins possible, ou alors le plus positivement possible.
C'est ça.
En tout cas, c'est de pas se laisser déstabiliser quand l'arbitre siffle pas. Sur l'action d'Exebet, par exemple, en quart de finale,
c'est ça qui cite,
on est devant au score. Exebet fait cette action, donc on marque pas sur un temps fort. Et là, à partir de ce moment-là, on est derrière sur leur système de scorage et on rattrapera pas du match ce système de scorage, on perd le match.
Ouais, c'est ça. Et du coup, l'axe de progression, c'est comment réussir à gagner le match malgré le fait que tu sois complètement au bout du rouleau s'il y a une erreur d'arbitrage, par exemple.
Travail psychologique.
Et ça, je pense que les Irlandais, justement, c'est là où ils sont bien meilleurs que nous. T'as l'impression que les Irlandais, ils ont un peu de la chatte tout le temps, que rien ne peut leur arriver, qu'ils sont toujours sereins. Bah ça, c'est sûr qu'ils ont aussi travaillé. Toi, les Anglo-Saxons, c'est là où ils sont meilleurs que nous sur ce
point.
Ouais, mais les mecs, ils sont sereins, toi, ils sont
pas sifflés.
Ouais, donc ouais.
Je sais pas. Moi,
c'est le flegme.
Moi, j'ai l'impression qu'on perd aussi la Coupe du Monde par un épuisement psychologique, et pour moi, rajouter une couche de ça et encore en parler dans la presse et refaire du lyrisme avec des SMS qui sont magnifiques, mais on n'est pas Napoléon, tu vois. J'ai l'impression que tu complexifies un peu les choses et je trouve que tu mentalises, tu intellectualises.
Il intellectualise le débat. Il intellectualise le débat.
Alors, je comprends Galtier parce que c'est souvent ma personnalité.
C'est pas Servat qui intellectualise le débat.
Je pense que c'est vrai
que moi, Clément, je trouve que t'as raison. Ils ont pris une grosse claque sur la Coupe du Monde et là, c'est trop tôt. Ils ont peu le temps de se régénérer mentalement. L'autre, il continue à leur foutre des trucs comme ça dans la tête. Les gars, ils en peuvent plus, je pense. Ils ont juste envie de défoncer.
Voilà, j'ai peur que.
Ils veulent juste
nous refasse 6 mois d'absence à La Rochelle, quoi. Après 2 mois de capitana, le mec, il va encore être fumé. Bon, les gars, en tout cas, merci pour ces débats très intéressants.
Merci à toi.
Je vous propose de conclure tout de suite avec un peu, qu'on discute un peu cote et cote de l'équipe de France. Et est-ce que cette cote est jouable ou pas pour le tournoi destination? Trompette.
Non.
Elios, t'as des petites cotes bien gagnantes, bien chaudes pour nous, pour ce tournoi destination, non?
Ah ouais, j'ai que ça. On a pu faire toutes les suppositions du monde sur qui était le favori, mais qui de mieux placé que les bookmakers. Et ils viennent de publier leurs cotes récemment. Et bien évidemment, les gars, comme on l'a dit au début de l'épisode, nous sommes, encore une fois, malheureusement ou heureusement, les favoris de cette compétition.
Il y en a marre d'être favoris, il y en a marre.
Ça n'étonne plus personne.
Et pareil, d'ailleurs, on est aussi favoris, bon, rien à voir, mais on est aussi favoris pour l'Euro 2024 de football, donc ça devient un peu lassant d'être les meilleurs partout, quoi. On gagne rien, mais on est les meilleurs partout, c'est ça qui est cool. Impossible de pas français, ça fera plaisir à la Fédération Française de la Loose. Mais ouais, du coup, pour les cotes, je vais vous les énumérer très très brièvement. Pour le vainqueur de la compétition, donc on rappelle, pour être vainqueur de la compétition, t'es pas obligé de gagner tous les matchs. Donc je dirai ensuite les cotes pour le Grand Chelem, qui sera du coup l'équipe potentiellement invaincue de ce tournoi. Donc l'équipe favorite, c'est l'équipe de France avec une cote à 2,25. Ensuite, on a l'Irlande, bien évidemment, qui a fait une très belle Coupe du Monde et qui est notre concurrent direct pour le titre à 2,60. Et alors là, par contre, ensuite, ça dégringole, hein, les gars. Je peux vous dire que t'as l'impression que c'est une compétition à deux vitesses. Hein. T'as la France et l'Irlande qui sont favoris. Ensuite, paf, on passe à 6 sur de l'Angleterre. Paf,
j'adore
le rose beef sur les rotules. compliqué.
Oh là là.
Et après, paf. Bon, après, c'est la décadence. Hein. Ça part sur de l'Écosse à 12, du Pays de Galles à 20 et de l'Italie à 250.
Ah oui, classique. L'Italie à 250.
J'ai fait un ticket sur l'Italie, moi. Souvent, toi, non ? Toi, t'aimes bien l'Italie. Ouais, voilà, comme tous les ans.
Elios, tu mets quoi, toi ?
Non, non, pas du tout. Moi, l'année dernière, l'Italie, j'avais dit que c'était haché. C'est Thomas, toi, qui aime bien l'Italie.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'aime bien les Gallois. Moi, je pense que les Gallois vont finir devant l'Écosse. Mais bon, c'est pas non plus très très risqué comme que je m'avance pas beaucoup.
Nous ouais. prendrons les paris.
Bah. Moi, je pense que.
Moi, je vois bien.
1000 euros sur la France et 1000 euros sur l'Irlande, comme ça, vous sortez forcément bénéf.
En vrai, ouais. Hein. Sur vainqueur de la compétition, c'est pas hyper risqué, c'est pas. Surtout que je. Ah non, l'Irlande va jouer en Angleterre, donc ils partent du principe que peut-être que si l'Angleterre va gagner en Irlande, ils peuvent finir deuxième. Mais bon, non, on les voit pas gagner. Mais
c'est le Grand Chelem. C'est quoi les codes du Grand Chelem ?
Les codes du Grand Chelem. Ouais. Juste avant de passer sur le Grand Chelem, moi je pense que le classement il va être assez fidèle à l'ordre des cotes. Hein. Ça me paraît tout très plus ou moins logique. Et le Grand Chelem, on le rappelle, le Grand Chelem, tournoi destination, 5 matchs joués par équipe. Il faut gagner du coup les 5 rencontres pour avoir ce qu'on appelle le Grand Chelem, qui est le Graal au rugby.
Le Grande Chelem.
Et donc là, l'ordre entre guillemets des favoris est le même. Mais la France, du coup, est à 3,25. L'Irlande à 4. L'Angleterre à 17. Et ensuite, Écosse 40. Pays de Galles 65. Et l'Italie.
Dis-moi l'Italie.
L'Italie, ouais. Rien que pour toi, Clément, elle est à 1000. Allez, je te la fais à 1000 celle-là.
Elle se joue, hein. Moi, je vais mettre un bal sur l'Italie Grand Chelem. Hein.
Ouais. Putain, c'est.
Moi, je vois pas dans quel monde on gagne.
Sans faire un grand chelem.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que si on fait pas le grand chelem, ça veut dire qu'on a certainement perdu contre l'Irlande à domicile. Et comme on vient de le dire, on voit l'Irlande gagner.
L'Irlande fera le grand chelem.
Ouais, comme on voit l'Irlande gagner contre l'Angleterre, on peut dire avec pas mal de certitude que si on perd un match.
Il y aura un grand chelem.
On peut dire à 100% donc que la France va gagner le tournoi.
Avec un grand chelem.
On n'est pas mort.
Les gars, merci de vous être rendus disponibles dans le studio d'enregistrement du Rugby Show.
C'était un épisode... Il fait chaud dans le studio, il fait chaud.
Il fait une chaleur à crever, c'était un épisode extrêmement intéressant. Merci pour votre culture rugbystique. On vous donne rendez-vous, vous chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que nos réseaux sociaux sont à consommer sans modération, c'est très bon pour la santé. Et surtout, n'oubliez jamais le Rugby Show.
Oh non, jamais. Show, go. Oh, comment c'est chaud!
C'est bien!
On cherche les batteries, c'est un doublon ce week-end!
T'inquiète pas, là, avant la semaine prochaine, on va t'en mettre plein la tête sur les réseaux!
On va le faire pour toi, Anto, accroche-toi!
Rugby show, rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au rugby show.